Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Libéria, un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition a reporté d'une semaine la grande manifestation prévue ce lundi pour réclamer une amélioration des conditions de vie au gouvernement du président George Weah. C'est ce qu'a indiqué le chef de file de cette plateforme, Henry Costa. L'opposition avait maintenu jusqu'à dimanche soir l'appel à manifester malgré l'interdiction décrétée par les autorités, ce qui avait fait craindre de violence lors du rassemblement. Mais après une médiation de dernière minute de l'ONU et de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Henry Costa a proposé la date du 6 janvier pour la grande manifestation lors d'une conférence de presse. Et élection en Guinée-Bissau, le dépouillement du scrutin présidentiel de dimanche est en cours, une tâche qui a commencé dès la fermeture des bureaux de vote. 700 000 électeurs se sont rendus aux urnes dans le calme pour élire leur président lors du second tour de la présidentielle. Jean-Roger Bion fait le point.
La porte-parole de la Commission nationale électorale, Félix Bertha Vajmoura, a annoncé dans la soirée de dimanche que les résultats seront annoncés mercredi 1er janvier. Elle a exhorté les candidats et les organes de communication nationaux et étrangers à s'abstenir de véhiculer des informations liées aux résultats électoraux. La CNE saisit l'occasion pour réfuter les informations sans consistance véhiculées sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale, a ajouté Mme Vajmoura. Le candidat du parti d'opposition MADEM, Oumaro Sissoko Ambalo, avait relayé à la mi-journée ses allégations de fraude visant le président de la CNE. Pour cet ancien premier ministre arrivé deuxième au premier tour avec près de 28% des voix, la commission électorale manœuvre pour favoriser l'élection de son rival Domingos Simoes Pereira, le chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap vers PAIGC, qui a viré en tête avec 40,1% des suffrages au premier tour.
Au Mali, l'ex-président Amadou Toumani Touré, récemment rentré au pays, se dit disposé à s'investir pour la paix et la sécurité sur place. Déclaration faite dimanche à Mopti, dans le centre du pays, zone très affectée par les violences qui secouent le Mali. Les précisions de Bagassikoura.
Amadou Toumani Touré, dit ATT, s'exprimait aux côtés du Premier ministre Boubou Cissé à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la création de sa ville natale de Mopti, au cœur de la région centrale du pays où les attaques djihadistes et les conflits intercommunautaires ont fait des milliers de morts. Amadou Toumani Touré.
Nous ne pouvons pas laisser le Mali comme ça, ni la région de Mopti dans cette situation. À quoi est-ce que nous allons servir?
L'ex-président, âgé de 71 ans, a été accueilli par une foule d'habitants de Mopti enthousiastes. ATT, comme on l'appelle, est récemment rentré d'exil du Sénégal, où il vivait depuis sa chute en 2012.
Mais lorsque je reviens dans ce pays, je ne peux que aider, soutenir les autorités de mon pays, les autorités de la région de Mopti.
Général à la retraite et élu président en 2002, réélu en 2007, Amadou Toumani Touré avait été renversé le 22 mars 2012 par des militaires qui l'accusaient d'incompétence face à la rébellion dans le nord du pays. Il avait quitté le Mali pour le Sénégal voisin et Dakar, où il a mené depuis une existence discrète.
Ce n'est qu'une visite préliminaire. Inch'Allah, je reviendrai.
L'ex-président malien Amadou Toumani Touré, dit ATT. Le combat anti-djihadiste dans le Sahel maintenant. Au Niger, une manifestation de soutien aux forces de défense et de sécurité en guerre contre le terrorisme et aussi d'exigence d'un partenariat sincère entre le pays et la France dans le cadre de cette lutte devait se tenir ce week-end. Mais la manifestation a été interdite par les autorités de la ville de Niamey. Le point avec notre correspondant dans la capitale nigérienne, Abdulrazak Idrissa.
C'est la troisième fois depuis le début de ce mois de décembre qu'une manifestation publique projetée par les organisations de la société civile pour protester contre la présence des forces étrangères sur le sol nigérien est interdite par les autorités de la ville de Niamey au motif de risque de troubles à l'ordre public. Munkela Halidou, membre du cadre de concertation et d'action citoyenne.
Il n'y a pas de raison valable. L'interdiction était juste la volonté du patriarche. Il ne s'agit pas de troubles à l'ordre public. Il s'agit juste de vouloir cautionner ce que le président Issouf a dit, qu'ils ne vont plus tolérer que des manifestations puissent être, en tout cas, organisées sur le territoire.
Le chef de l'État nigérien, Issoufou Mahamadou, a en effet récemment, dans un entretien accordé à des médias français, annoncé qu'il n'autoriserait plus de manifestations de ce genre qui visent, selon lui, à démoraliser les soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme.
Ce n'est pas la base populaire qui s'exprime dans la rue. Ceux qui s'expriment dans la rue sont très très minoritaires. Moi je ne vois pas de foule, en tout cas au Niger, en train de contester les alliances qui sont en place, qu'on veut mettre en place pour lutter contre cette menace, qui est une menace planétaire. Et les Nigériens, en tout cas dans leur immense majorité, savent que cette menace est planétaire. Les gens qui contestent la présence des alliés à nos côtés sont minoritaires. On les connaît. On connaît le rapport de force. Nous sommes en guerre et moi je n'accepterai pas que des actions de démoralisation des forces de défense et de sécurité se déroulent sur mon territoire, au Niger.
Pour les actions futures qu'elle envisage, les organisations de la société civile disent n'avoir plus l'intention d'obtempérer à des décisions d'interdiction. Moussa Kiangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen.
L'interdiction d'une manifestation pacifique dont l'objet est très clair constitue vraiment une entorse grave aux principes, aux valeurs de la démocratie. Et nous avons pris la ferme résolution. Pour ce qui concerne les jours à venir, nous aurons à faire une manifestation début janvier qui aura lieu un jour ouvrable. Si ceux qui ne veulent pas, on fera la prochaine manifestation un jour ouvrable. Et à la prochaine manifestation, nous ne considérerons aucun papier que qui que ce soit va nous décerner.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Soudan, un tribunal a condamné ce lundi à la peine capitale 27 membres du service des renseignements généraux jugés pour la mort d'un manifestant en décembre 2018. Reconnu coupable d'avoir torturé à mort un manifestant qui était détenu dans les locaux du service de renseignement, les 27 prévenus ont été condamnés à mort par pendaison, a statué le juge Sadok Abdelrahman. La victime était un enseignant, Ahmed Al-Keir Awad, qui a été frappé et torturé à mort après son arrestation fin janvier par les condamnés dans une localité de l'état de Kassala, dans l'est du Soudan. Rappelons que le 19 décembre 2018, des centaines de Soudanais avaient commencé à manifester dans plusieurs villes du pays après la décision gouvernementale de tripler le prix du pain, alors que le pays est en pleine crise économique. Ce mouvement s'est transformé progressivement en une révolte qui a abouti le 11 avril à la destitution par l'armée du président Omar al-Béchir après 30 ans de pouvoir sans partage. Selon Amnesty International, au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression de la campagne de protestation. En République démocratique du Congo, au moins 5 personnes ont été tuées dimanche dans une localité de la province troublée du Nord Kivu, dans l'est du pays. Les victimes sont mortes des suites de l'explosion d'un obus. Les précisions d'Anna Dodson.
Selon Richard Niembo Wanyembo, administrateur du territoire de Lubero, un riverain a ramassé un engin explosif qu'il a ramené chez lui et l'obus a explosé pendant qu'il le manipulait, tuant au moins 5 personnes et en blessant 3 autres. L'accident a eu lieu à Munoli, une localité située sur le territoire de Lubero, qui, comme l'ensemble de la région du Kivu, est le théâtre de violences qui ont fait des milliers de morts depuis 25 ans. Des dizaines de groupes armés y sont répertoriés.
Violence en Somalie maintenant. Le bilan de l'attentat de samedi à Mogadiscio s'est alourdi à 81 morts, deux victimes ayant succombé à leurs blessures, selon le ministère somalien de l'Information. Le gouvernement a précisé qu'une dizaine de personnes étaient encore portées disparues après cet attentat à la voiture piégée contre un poste de contrôle dans un quartier très animé de la capitale. L'attaque la plus meurtrière a frappé Mogadiscio depuis 2 ans. Le précédent bilan s'élevait à 79 morts et 125 blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed Di Farmajo a accusé les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Et pour terminer, l'Iran a estimé ce lundi que les États-Unis avaient montré, et je cite, leur soutien au terrorisme en menant en Irak des frappes aériennes contre des forces pro-Iran qui ont lutté contre le groupe djihadiste État islamique. Des avions américains ont frappé dimanche soir plusieurs bases des brigades du Hezbollah, l'une des factions les plus radicales du Hashed al-Shaabi, coalition de paramilitaires dominée par les pro-Iran et désormais intégrée aux forces armées irakiennes.